Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Et nous sommes de retour. Il est 8h09. Bon dimanche avec RMC. Merci d'être là. Et jusqu'à 10h, c'est votre auto. Jean-Luc, au top de sa forme. Il attend vos questions au 32-16. Eric, qu'on accueille tout de suite. Notez que tout à l'heure, on retrouvera Maître Rémi Jossaume. Que peut-on faire ou dire, ou ne pas faire ou ne pas dire en présence des forces de l'ordre? Tiens.
Ouais.
Eh bien, on verra ça.
Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la réponse que tout à l'heure j'ai fait. Est-ce qu'on peut faire.
Et voilà. Est-ce qu'on a le droit de faire la poule? Hein?
Oui.
J'allais dire, est-ce qu'on a le droit de faire la poule devant les poulets? Mais on peut pas dire ça.
Ah bah, finalement, je sais pas. On demandera
tout à l'heure à Maître Rémi Jossaume.
Enfin, si, je sais, mais je vous le dirai pas.
L'essai de la semaine, ça sera une petite youn des sportifs citadines.
Voilà, c'est plus simple que de balancer le nom complet de la Hyundai i10 TGDI 100 N Line. Voilà.
Et ben voilà.
Parce que tout le monde a coupé le poste. Voilà, non, c'est une. On va dire, allez, c'est une descendante des petites GTI de l'époque, parce que les GTI des années 80-90, ben, elles ont beaucoup grossi. Donc là, on revient à un format.
D'accord.
Un format compact avec une petite bombinette.
Ça sera tout à l'heure en fin de cette deuxième partie. Et je le disais, vos questions en priorité, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Merci d'être là et bienvenue pour cette deuxième partie. Un bon réveil aussi à vous. Et on accueille Eric tout de suite.
Oui, bonjour François, bonjour Jean-Luc.
Bonjour Eric. Des Bouches-du-Rhône.
Oui.
De quel endroit des Bouches-du-Rhône d'ailleurs?
C'est tout près de Marseille, c'est Port-de-Bouc.
Port-de-Bouc, d'accord.
Oui. Moi je serai à Vitrolles, tiens, j'en profite.
Ah oui.
Je serai à Vitrolles samedi prochain.
Vous allez faire vos courses la semaine prochaine à Vitrolles.
C'est ça, ouais.
C'est pas mal, hein. C'est pas bête, c'est pas loin.
Un carrefour à Vitrolles, en fait. Je vais pas faire mes courses au carrefour à Vitrolles. C'est l'opération avec la Banque Postale Financement, où il y a tous les experts en fait du groupe. Si vous, il y a les gens de 01net qui sont là.
Il y a vous.
Les gens de My Cuisine TV. Il y a moi pour parler de voitures. Donc si vous voulez que je réponde à des questions sur les voitures, bah vous venez.
Vous y serez toute la journée?
Ouais, j'y vais tout le samedi.
Tout le samedi.
Ouais, tout le samedi.
Dites-moi.
Vous me verrez en vrai, j'existe,
c'est vrai,
en chair et en os.
Ouais. Vous serez dans un caddie ou?
Oui, oui, je serai dans un caddie. Oui, oui, un peu comme E.T.
Oui, c'est
quand
ça.
On transportait, je suis à l'avant d'un vélo.
Bon, bah, Eric, si vous passez par Vitrolles, vous pourrez saluer Jean-Luc. Ça lui fera plaisir.
Bah, j'hésiterai pas.
Bon. En tout cas, bienvenue. Et on écoute votre question. Que vous arrive-t-il?
Eh ben, j'ai eu un petit souci avec mon C4 Picasso, 130 chevaux PureTech. Un problème de régime moteur. Donc, je l'ai amené à mon garage Citroën. Et après le diagnostic, ils m'ont dit qu'il fallait changer le réservoir de carburant, l'absorbeur de vapeur d'essence et nettoyer les soupapes, rien que ça. Et ça s'élève à 2340 €. Et donc j'ai été surpris d'avoir un changement de réservoir de carburant pour un véhicule de à peine 5 ans et un faible kilométrage. Et donc évidemment, j'ai demandé une prise en charge de Citroën.
Ouais.
Et ils me font une proposition de 75% de prise en charge. Alors j'ai deux questions. Est-ce que c'est un vice caché? Et est-ce que je dois accepter 75% ou demander une prise en charge à 100%? Et ma deuxième question, c'est est-ce que après réparation, ce problème peut revenir sur le nouveau réservoir?
Alors, déjà, il y a une partie de la réponse dans ce que vous venez de dire. À partir du moment où Citroën dit oui, d'accord, on prendra 75%, ça répond à la question est-ce que c'est un vice caché? Oui. C'est connu.
D'accord.
Ce problème de, un peu comme François qui a des problèmes de régime. D'ailleurs, il est en train de s'enfiler un croissant. Donc,
c'est faux.
C'est totalement faux. Totalement faux. Ouais. C'est dommage que vous ayez pas la vidéo parce que ça serait assez rigolo. Donc non. Alors c'est un problème connu. C'est vrai que le moteur boot, c'est un problème d'alimentation en essence et ça vient effectivement du système de canister et du réservoir. Alors moi là où je suis étonné, c'est quand même le prix qu'on vous a annoncé, 2400 € pour le changement. Pour moi, vous avez le détail de ces 2400 €, ça me paraît quand même très cher.
Ben oui, j'ai le détail, j'ai le devis sous les yeux.
Ouais, allez-y, ça m'intéresse.
Bon, tout ça c'est hors taxe. J'ai 830 € de réservoir.
Ouais.
Donc c'est hors taxe. L'absorbeur de vapeur d'essence c'est 156 €.
Ouais.
Et puis après il y a des bagues, des colliers de fixation, il
ouais, bon,
y a
ça,
tout un tas de choses.
Et c'est surtout la main-d'œuvre qui coûte cher, effectivement.
Oui, la main-d'œuvre est assez conséquente, oui.
Ouais. Alors, bon, bien évidemment, ça rentre dans le domaine des vices cachés, donc ça doit être pris en charge à 100% votre voiture à la moins de 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les vis cachés, au-delà de 5 ans, c'est très dur d'arriver à faire reconnaître au constructeur que c'est un vis caché. Là, elle a moins de 5 ans. Évidemment, c'est pas une pièce d'usure, le réservoir. Non, évidemment,
elle date de 2015.
Elle a un petit peu plus de 5 ans. Elle a un peu plus de 5 ans.
D'accord, un peu plus de 5 ans.
Ouais. Elle est de juillet 2015.
D'accord.
Oh, oh.
Ouais, bah oui, c'est
non Dieu. Mais bon. Mais le problème a été détecté avant juillet 2015 ou après?
Ouais, mais on est.
Et non, malheureusement, je l'ai amené après.
Ouais, mais franchement, là dans
elle
votre
a un petit bloc kilométrage.
Dans votre cas, déjà le fait que la marque accepte de payer 75% de la facture, ça veut tout dire. Il va falloir rentrer dans une négociation de marchand de poissons, il faut leur demander 100%. C'est un problème qui est un défaut de conception sur le véhicule. Alors, est-ce qu'il va se reproduire après? Je pense que non, parce qu'à mon avis, ils ont dû retravailler. C'est plus le canister qui doit poser problème, mais qui impose après le changement du réservoir. Parce qu'à mon avis, vous savez, les réservoirs sont en polyéthylène. Et là, à mon avis, vous aviez une mauvaise mise à l'air du réservoir qui a dû déformer le réservoir. C'est pour ça aussi que vous aviez des problèmes d'alimentation au carburant, parce que quand le réservoir il se trouve en dépression, on a du mal à alimenter en carburant le moteur. Donc, en fait, ils doivent prendre 100% des réparations.
Mais alors, comment doit procéder Eric? Il va voir son concessionnaire, il en parle, il dit écoutez, moi, 100%.
Votre concessionnaire, il devrait plutôt être de votre côté dans ce cas-là.
Au tout départ, je vous avouerai que quand je lui ai dit mais c'est un vice caché, parce que j'écoute quand même souvent votre radio et je sais que bon, il faut pas se laisser faire, parce que lui au départ il m'a annoncé la douloureuse et il m'a dit bon ben voilà, c'est très rare mais tant pis, ça tombe sur vous, et voilà, donc moi je me suis pas laissé faire. Je lui ai dit je vois pas pourquoi. J'ai eu beaucoup de voitures et j'ai jamais changé de réservoir après 5 ans. Et donc je lui ai dit je vais monter un dossier de prise en charge. D'accord. Voilà. Donc
il n'était pas de votre côté, en fait.
Non, j'ai dû quand même insister. Et je vous avouerai qu'au départ, j'ai dit, je vais monter le dossier tout seul. Et quand ils ont vu que la tournure que ça prenait, ils ont dit, attendez, on va monter le dossier, nous.
D'accord. Et bon, alors, il faut dire, OK, 75%, donc c'est une reconnaissance de la part de Citroën du problème. Maintenant, il faut demander 100%. Alors, est-ce que vous les aurez? Je suis pas sûr. Mais il faut demander 100%. Vous avez le droit de demander 100%.
Là, pour l'instant, vous êtes à 75% de 2300 euros, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Non, il faut demander 100%.
D'accord. Donc, lettre recommandée.
Voilà, exactement. J'ai bien pris note de votre proposition, machin. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un vice caché qui rentre là dans le cadre de... la loi, alors bon, à vous de chercher, je ne vais pas tout vous donner là, parce que je le sais pas de tête, mais de leur dire, voilà, je
veux plus que 70%.
Ouais, vous réclamez 100% de prise en charge.
Oui, puis je leur dirai que j'ai contacté Jean-Luc Moreau.
Oui, vous pouvez le dire,
Là, ils vont raccrocher.
Ouais, si vous dites Jean-Luc Moreau, ils raccrocheront. Ils viendront me menacer chez moi, mais il n'y a pas de problème.
Ils vont vous retrouver à Vitrolles la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça.
Vous allez avoir le concessionnaire Citroën Vitrolles qui va venir.
Non, le concessionnaire, lui, s'en fiche du moment qu'il est payé. Bon, alors, c'est sûr, le concessionnaire, il est moins quand c'est Citroën qui le paye, parce qu'en fait, je pense qu'au taux horaire, il n'est pas payé le même prix que si c'est vous qui payez de votre poche.
Bien sûr.
Donc, c'est souvent pour ça qu'ils se font tirer l'oreille quand il y a des dossiers comme ça où vous dites, je veux que ça soit pris en charge par le constructeur. Eux, ils n'aiment pas, quoi. Parce qu'ils doivent être, au lieu de, je ne sais pas combien il est, votre concessionnaire, mais il doit être sur ce genre d'opération à peut-être entre 70 et 80 euros de l'heure, et Citroën va le payer 40 ou 45. Donc, c'est clair qu'il va gagner moitié moins d'argent si c'est Citroën qui le paye que si c'était vous.
Ouais, mais d'un côté, il gagne un client. Après.
Mais vous savez, il y en a qui réfléchissent pas moyen terme. Hein. Ils voient ce qui rentre dans leur portefeuille le jour même et puis le reste, ils s'en fichent un peu.
Voilà, Eric.
D'accord, merci beaucoup.
Bon dimanche.
De rien, Eric, bonne journée.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et maintenant, Maître Rémi Jossaume entre en scène, mesdames, messieurs. Il est avec nous. Bonjour, Maître.
Bonjour, François. Bonjour, Jean-Luc.
Bonjour, Maître.
Vous avez l'air d'être bien réveillé, Maître, ce dimanche matin.
Très bien réveillé. J'ai écouté avec assiduité les propos de Jean-Luc.
Et alors, qu'est-ce que j'ai dit
comme... Garantie de vice cachée, non?
Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise?
Non, aucune. C'est très bien, effectivement. Mais si je peux me permettre, l'auditeur a peut-être intérêt évidemment de négocier, parce que ce délai de 5 ans, c'est vraiment le délai au-delà duquel il ne peut plus agir. Donc, effectivement, si le délai de 5 ans est passé, il va avoir du mal à avoir la totalité de la réparation prise en charge, en tout cas, ouais. À mon avis.
Bon. Donc, lui, il a le droit d'aller voir son concessionnaire et de le traiter de tous les noms d'oiseaux si le concessionnaire ne l'aide pas. En revanche, ça, il n'a pas le droit de le faire si le concessionnaire a un képi, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire en présence des forces de l'ordre? Dire ou ne pas dire? Rémi, on va commencer quand même par le truc qui intéresse tout le monde ici. Est-ce que si j'arrive devant, en passant devant la police, j'ai fait... Est-ce que ça, ça me vaut au mieux, enfin, au minimum une verbalisation, au pire, un embastillement?
Ouais, je pense qu'au pire, ça va vous coûter quelques heures en cellule, Jean-Luc, parce que là, vous tombez vraiment dans la qualification de ce qu'on appelle l'outrage à agent, qui est évidemment défini par le code pénal. Et en fait, les auditeurs doivent savoir, c'est tous ces paroles, tous ces gestes, ces écrits, ces images qui vont porter atteinte à la dignité ou au respect qui est dû à la fonction dont est investie la personne. Qui est en face de vous et qui effectivement représente l'autorité publique. Alors la jurisprudence, bien sûr, a affiné la définition de ce qu'était cet outrage à agent. Donc ça va être les paroles. Alors les paroles, ça va être toutes les insultes, toutes les injures qu'on peut
alors les insultes, ça on sait, mais ça, un truc, si on l'appelle mon poulet, par exemple, comme François m'appelle mon poulet affectueusement, j'ai pas le droit de dire mon poulet à un agent de la force publique.
Je pense pas, non. Enfin, peut-être en privé, là, mais ça dépend de vos relations. Mais dans le cadre d'une
mon lapin, par contre, je
mission,
peux. Non.
Ah, là, je pense que là, vous.
En plus, Jean-Luc allez. Jean-Luc adore l'uniforme en plus, donc il serait capable de dire mon poulet. Hein.
Non, mais là, je pense qu'effectivement, vous portez atteinte à sa dignité. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est pas nécessairement des outrages, enfin des injures ou des insultes, hein, parce que on a des cas de jurisprudence qui sont, je veux dire, un peu amusants. On a, par exemple, celui qui va dire à l'agent de police, j'ai le bras long, j'en connais plus que vous, je suis correspondant de presse, je vais vous faire un bel article.
Je suis journaliste et vous allez voir ce que vous allez voir.
Voilà, c'est du vrai, c'est du vécu. Donc là, vous êtes effectivement dans l'outrage. Mais ça va être aussi,
ça,
par exemple...
Ah, ça, on est dans l'outrage.
Ah, là, vous êtes dans l'outrage. Oui, ah ouais. Vous êtes dans l'outrage. Parce que
si,
vous
moi, si je me fais arrêter et que je dis au policier, vous savez quoi, je vais parler de ce que vous avez fait parce que c'est inadmissible, je suis dans l'outrage.
Bon, parce que, comme vous le dites là, non. Mais quand vous le dites avec un ton un peu menaçant, moqueur...
avec le doigt levé qui pointait comme ça,
par exemple,
là, ça, c'est pas
voilà,
bien.
Ou si je lui dis, je vais appeler votre chef, c'est aussi, on peut considérer que c'est menaçant.
Passez-moi le manager, si je dis ça.
Non, là, je pense pas. Là, vous êtes dans l'exercice de votre liberté d'expression, il n'y a pas de difficulté. Mais par exemple, ça a été jugé qu'un regard provoquant, vous voyez, quand vous regardez la personne avec les yeux qui commencent à plisser un petit peu, là,
vous voyez,
voilà, ça peut être effectivement...
Un regard provoquant.
Eh oui, ça peut être un outrage, par exemple, ou avec un mépris, vous voyez, ou quand vous avez une gestuelle avec vos doigts, avec votre tête, avec vos...
Tiens, je passe devant la police et je voulais me gratter le nez, j'ai le doigt en l'air, malencontreusement, au moment où je passe devant eux.
Et pas le bon doigt.
Oui, voilà, et pas le bon doigt, et donc, on peut avoir des grosses narines, hein, on peut avoir besoin d'un doigt plus gros pour le mettre dedans. Et ça, on peut être verbalisé pour ça, on peut être condamné pour ça.
Oui, là aussi, ça va être... C'est la manière dont le policier va l'interpréter. Et comme vous le savez, ce que constate le policier est souvent mieux ou plus entendu que ce que vous allez dire vous. Mais ça me fait penser à cette affaire assez incroyable qu'on a entendu il y a quelques semaines dans la presse. C'est cet Allemand qui a été condamné en Allemagne parce qu'il avait fait un doigt d'honneur à un radar automatique. Et bien, figurez-vous que comme les bonnes pratiques n'ont plus de frontières, et bien, ça a été jugé également en France, cette affaire-là. Et bien, la personne qui a été jugée a été relaxée. Alors, c'est intéressant parce que il était poursuivi par le procureur de la République qui estimait que, évidemment, le doigt d'honneur, c'était un doigt d'honneur qui était dirigé vers...
Oui, mais pas contre une personne, contre une machine.
Il exactement. Pouvait pas. Voilà. C'est ce que le juge a retenu. Le juge a dit il n'était pas démontré que cet automobiliste-là avait la volonté de s'adresser à l'agent verbalisateur
qui était derrière,
la machine. Voilà,
alors, le doigt d'honneur...
Enfin, d'un côté c'est quand même abruti de faire ça. Enfin, on est d'accord. Enfin, il ne faut pas quand même...
Non. Le doigt d'honneur.
Il faut pas oublier l'essentiel. Il faut, excusez-moi,
du respect. Mais le doigt d'honneur à un radar automatique donc sans conséquence. Par contre, si vous passez et qu'il y a les gendarmes qui sont là et que c'est un radar qui est posé, là c'est grave.
Oui, parce que là, vous pouvez pas, d'une part, dire que ça ne s'adressait pas directement aux hommes qui étaient là, et d'autre part, effectivement, ça leur est directement adressé. Alors, l'histoire du doigt dans le nez, Jean-Luc, bon, si vous voulez, à partir du moment où il peut y avoir une méprise ou que vous n'aviez pas conscience que votre geste allait être capté ou vu par un agent, il n'y a pas d'outrage, il n'y a pas de délit si ce n'est pas intentionnellement porté à la connaissance,
oui, bien sûr.
Vous voyez, du gendarme, en fait, ou du policier.
L'interprétation est capitale, en fait, dans ce type de choses.
Complètement. Chose. C'est-à-dire que quand la personne est en civil, quand le policier ou le gendarme est en civil, que vous n'avez pas connaissance de sa qualité, et que vous dites, tous les gendarmes sont des cons pour x, y raisons qui vous appartiennent, c'est sûr que là, il ne peut pas y avoir d'outrage en tant que tel. Par contre, si vous aviez la connaissance que cette personne-là, même en civil, est policier, parce que c'est votre gendarme, c'est votre voisin gendarme ou votre voisin policier, et que vous avez fait volontairement allusion à cela, là, évidemment, il y a une infraction qui est caractérisée. Je rappelle quand même que cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, donc c'est extrêmement sévèrement sanctionné. Cette infraction, elle est également applicable pour les personnes qui sont chargées d'une mission de service public, et en matière de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'automobile, ça va être aussi, par exemple, les agents qui sont au bord de la route, comme vous le savez, et qui vont nettoyer ou qui vont baliser un accident. Ça va être aussi les inspecteurs du permis de conduire, par exemple. Ça va être le préfet, ça va être enfin tous les agents qui interviennent également sur la route.
Rémi, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que vous allez faire un doigt d'honneur à des gendarmes qui sont avec un radar et vous allez vous retrouver devant un tribunal. Ils se font insulter copieusement quand ils vont dans les cités. J'ai l'impression que personne passe jamais devant un tribunal. Il y a pas de poids de mesure.
Mais c'est pas pour autant qu'il faut.
Mais je veux dire, moi, je me si en faisant côte.
Vous allez dire une connerie là.
Je le vois arriver, mais c'est sûr, c'est certain. Je vivrais très mal le fait.
Sous un tunnel, François.
Ouais. Moi aussi. On prend le même tunnel, hein, Rémi.
Je vivrais très mal le fait d'être verbalisé parce que j'ai eu un mauvais regard. En étant arrêté.
Vous n'aviez pas qu'à avoir un mauvais regard.
Parfois ça peut être justifié. Parfois on peut.
À ce moment-là, vous en assumez les conséquences.
Simplement.
Voilà.
Je trouve qu'en la matière, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Voilà.
Non, mais bon, pour ne pas fuir le débat, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais il est vrai qu'il y a un ressentiment quand on est usager de la route, c'est qu'on échappe pas à toutes les sanctions, quelles qu'elles soient, que ce soit le stationnement payant, comme ça soit la vitesse. Quand il y a une infraction, on la constate et vous payez. Et peut-être qu'effectivement, pour des délits de droit commun, on a l'impression que la justice passe plus lentement, voire ne passe pas pour certains délits de droit commun, alors que quand on est usager, effectivement, il y a une forme d'automatisation de la sanction. Je comprends un peu ce que veut dire Jean-Luc dans ce sens-là, mais voilà, effectivement, ça ne justifie ni l'un ni l'autre, et ça n'excuse ni l'un ni l'autre non plus.
Merci, maître.
Allez, bon dimanche.
Merci,
maître.
Allez,
au revoir.
Vous pouvez aller vous
recoucher
maintenant.
Mon lapin ou mon poulet, Rémi. Hein.
Mon lapin, on peut.
Mon lapin, on a le droit.
Il n'y a pas de problème. On revient dans un instant et nous aurons Patrick Jean-Luc qui souhaite changer de véhicule. Il aimerait avoir vos lumières. Et puis, bien sûr, à tout moment, le 32-16, la Pierre MC Direct Studio. On revient dans quelques instants.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour, 8h32, un bon dimanche. Bienvenue si vous venez d'arriver sur AMC Votre Taux. Donc tous les dimanches 7h-10h, vous avez raté certes la première heure et demie de cette émission. Et sachez que vous pourrez la retrouver en podcast, en replay, dans les heures qui viennent sur l'appli RMC, sur rmc.fr. Jean-Luc, on attaque tout de suite avec les questions et Patrick est avec nous.
Oui, bonjour.
Bonjour Patrick, bienvenue.
Bonjour Patrick. Bonjour à vous deux, ravi d'être sur RMC. Donc j'ai une petite question. J'ai actuellement un Lexus RX300 qui date un peu qui est de 2005. Qui fonctionne encore, mais qui présente quelques signes de vieillesse, on va dire. Et donc j'aurais souhaité changer
Qui présente quelques signes de vieillesse, à quel niveau? C'est l'intérieur, c'est la carrosserie, c'est quoi?
Alors la carrosserie, puisque au bout de 15 ans, eh bien, elle a subi les affres des parkings.
Ouais, d'accord. Et bon, ça, c'est vous, hein, c'est pas la carrosserie. Oui, ça, ouais, voilà.
Voilà. Les freins, il va falloir changer les freins bientôt. Il y a une fuite au niveau du toit qui fait que au niveau du tapis passager, j'ai de l'eau en permanence.
Vous avez un toit ouvrant, c'est ça? Il y a une fuite
Toit ouvrant. Alors, ouais. J'ai déjà eu l'occasion, c'est au niveau de la glissière sur le côté, là, au niveau du toit. Je l'avais amené chez Lexus, on me l'avait réparé, puis là, ça revient de nouveau. Voilà, et puis c'est une voiture qui a quand même 245 000 km, bon, qui fonctionne encore très bien. Hein, mais
donc, elle est juste rodée, en fait. Hein, parce que le 6 cylindres Lexus à 245 000, vous finissez le rodage, en fait.
Ah d'accord.
Bon. Voilà.
Oui, c'est absolument. Bon après un coffre qui commence à faire du bon, c'est un vérin à changer, c'est sûr. Voilà, bon, je m'étais dit faire des frais sur une voiture qui commence à dater un peu, même d'accord. Si une nouvelle fois elle fonctionne très bien, voilà.
Donc vous voulez changer et vous vous avez une fausse bonne idée. Parce que je suis en train de regarder la...
Ah d'accord.
Et alors on vous écoute.
Alors voilà, j'ai regardé un petit peu le marché de l'occasion. J'estime que j'ai fait une occasion en or quand j'ai acheté cette voiture. Je l'avais acheté à l'époque 20 000 euros. En 2009, je l'avais acheté 20 000 euros. Elle avait 23 000 km. Je pense qu'une occasion comme ça, j'en retrouverai plus. J'ai cherché un Lexus à peu près dans les mêmes tarifs actuellement. Je trouve, mais elles ont 200 000 km. Donc voilà. Donc je me suis reporté. Alors en plus, je veux quelque chose qui soit un petit peu spacieux, enfin un petit peu haut, genre SUV et tout ça. Donc j'avais vu, je me suis dit, tiens, on va retourner chez une gamme française. Et donc je me suis tourné vers le Renault Espace 5, 200 chevaux, un Lexus TCE 200 chevaux. Voilà.
comment vous dire?
J'aime pas ce rire.
Comment vous dire? C'est rare que je tente de décourager un auditeur, mais là, bon, là, je vais le faire. C'est pour votre bien,
d'accord.
En fait.
Bon.
Le Renault Espace 5, donc vous allez l'acheter d'occasion.
Avec quel
budget?
Oh, de 20 000.
D'accord. Donc vous allez avoir un des premiers modèles. Juste quand même. Alors c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous effrayer. Sur le Renault Espace 5, il y a eu 35 actions correctives en 2 ans au moment où il était lancé. Voilà. Bon, alors vous me direz, c'est plutôt bien. Ils reconnaissent leurs erreurs. Ils essayent de les corriger. Bon après le moteur, le 1 litre 6 TCE avec la boîte robotisée à 7 rapports. Qui est un moteur qui est sur la Clio RS. Sur la Clio RS, il est pas trop mal. Dans l'Espace 5, il est quand même plutôt gourmand. En plus, la boîte robotisée provoque des à-coups. Donc, en termes, vous sortez du Lexus qui est un monde de douceur. Et là, vous allez vous retrouver avec une mécanique qui va consommer autant que votre 6 cylindres, mais qui en plus aura un agrément qui sera inférieur. Et surtout, vous passez du truc le plus fiable, vous dire le truc le moins fiable, mais on n'en est pas loin, parce que les pannes de boîte sont quand même assez fréquentes avec le DC7. Vous avez des bruits de train roulant sur l'Espace 5, vous avez des bugs électroniques, et franchement, le Airlink 2 qui est à l'intérieur, c'est juste une misère. Donc voilà. Donc autant, si vous voulez vous initier à la mécanique,
bonjour Renault,
et si vous voulez faire connaissance avec votre concessionnaire, je vous conseillerais effectivement cette voiture-là. Maintenant, si vous voulez rouler vraiment, oubliez cette idée.
Ce qui est pas mal pour une voiture, en fait.
Oui, à la base, c'était pour ça, je voulais rouler avec.
Oubliez cette idée, acheter un Lexus RX 400h, même avec 150 000 km, ça sera 10 fois mieux. Voilà. Bon, vous consommerez moins qu'avec votre 300. Et puis vous aurez le même agrément et puis ça durera X années, franchement. Oubliez vraiment, hein. Si vous le faites, vous allez nous rappeler dans 6 mois en disant ça y est, il est déjà au garage.
Enfin,
je suis peut-être mauvaise langue, il va peut-être pas tomber en panne. Je suis pas en train de dire que tous les Renault Espace 5 tombent en panne. Mais franchement.
C'est-à-dire que statistiquement, il y a plus de chances.
Il y a de fortes probabilités.
Vous passez d'un Lexus RX à un Renault Espace, je suis désolé.
Avec ce Lexus, j'ai jamais rien fait. L'entretien normal,
jamais. Mais d'un côté, vous êtes mal éduqué, Patrick. Il faudrait que, en changeant de véhicule.
J'aurais dû commencer par le.
Voilà, vous connaissez pas le prénom de votre concessionnaire Lexus, je suis sûr. Non. Alors que vous connaîtrez parfaitement
tous les salariés,
non, voilà,
du concessionnaire Renault.
Avec ce que j'ai entendu, je crois que je le connaîtrais pas, le prénom du concessionnaire
Renault. Mais c'est beaucoup plus convivial d'acheter une Renault. Parce qu'on est souvent chez le concessionnaire pour discuter, voilà, bon.
Après, quand est-ce que
je récupère ma voiture? Est-ce que vous avez eu les pièces?
Jean-Luc, on parle d'un modèle bien précis. C'est pas, heureusement, Renault a fait d'énormes progrès et les modèles actuels sont
beaucoup
plus fiables, sûr.
On est d'accord, voilà.
Mais là, on se focalise sur ce modèle-là.
Là, on va dire que celui-là, il va être d'occasion, ça va être des années misères, quoi. Donc.
D'accord. Patrick, merci beaucoup.
Ça y est, je me suis fâché avec. Donc, comme Renault est quand même la première marque française en France, ça y est, je suis fâché avec. Donc...
Mais non, parce qu'attendez, vous avez dit plein de bien sur des nouveaux modèles.
Non, mais évidemment.
La Clio hybride, vous l'appréciez beaucoup.
J'adore la Clio.
La Renault Zoé, moi, c'est une voiture que j'adore.
On est d'accord, mais quand c'est pas bien, il faut dire que c'est pas bien. Voilà.
Bien
on est crédible quand on dit que c'est bien.
Évidemment.
Si c'est pas bien, on dit que c'est pas bien.
Mais je pense que chez Renault, ils le savent aussi.
Bah oui, évidemment. De toute façon, il n'y a qu'à voir les ventes et l'espace va être arrêté. Bon, ça y est, bon, voilà.
Oui, c'est ça. 8h39, et puis l'espace, il faut le laisser à Elon Musk. Hein.
Oui.
Ça sert à rien, rien. C'est bon. On revient dans un instant sur RMC, et on retrouvera l'essai de la semaine. L'essai de la semaine, ce sera une petite Hyundai Citadine sportive. Allez, et puis on retrouvera vos questions aussi au 32-16. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le week-end des experts loto, et avant de retrouver l'essai de la semaine, on repart avec vos questions au 32-16. Tiens, on parlait de Renault il y a quelques instants, on évoquait la Clio hybride, parce qu'on disait que finalement, chez Renault, c'est vrai qu'il y avait d'anciens modèles qui posaient problème, mais les nouveaux sont plutôt bons, et c'est justement le thème de la question de Cathy qui est là.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François, oui j'aimerais
bonjour
avoir
Cathy.
Lumières.
Oui. Bon, alors Cathy, vous avez l'air d'être fidèle à Renault, visiblement.
Oui, et fidèle à votre émission aussi, parce que je vous appelle régulièrement.
Ah, très bien. Mais donc, vous êtes contente de Renault?
Oui, j'en suis à la quatrième Clio.
Eh ben voilà.
Mais c'est très bien, la Clio.
Et j'ai aussi un Captur.
Ben, j'adore.
Eh ben voilà.
J'ai vendu un Captur, entre guillemets, à une dame hier. Qui est venue
vous avez vendu un Captur?
Oui, on était à Thionville. Donc, bon.
Alors, ma question, c'est... cette fois-ci, je l'ai prise en LOA parce que j'ai choisi une hybride et que j'ai un petit peu peur des nouvelles technologies.
Alors, vous ne l'avez pas eue encore, votre voiture?
Non, je dois l'avoir. Oh là là, ils m'ont dit que je l'aurai entre... c'est le Père Noël, s'il travaille, qui va me l'amener.
Vous allez... franchement, c'est... Moi, en plus de toutes les nouvelles Renault, là, parce que vous avez vu, ils ont sorti de l'hybride rechargeable, de l'hybride, etc.
Oui.
Et ma préférée de toutes ces voitures, c'est vraiment la Clio. Parce que on a, alors certes, elle est pas hybride rechargeable. On peut pas faire beaucoup de kilomètres en électrique. On peut faire 3 kilomètres quand la batterie est chargée, mais c'est pas le but du jeu. C'est surtout l'agrément de conduite de cette voiture qui est important parce qu'on a beaucoup de puissance. Il y a 140 chevaux déjà, donc ça va vous paraître un peu va-va-voum par rapport à la voiture que vous aviez avant. Et puis en même temps, on a des consos qui sont, alors on va dire entre 4 et 5 litres au 100 en fonction du type de parcours que vous faites. Et surtout, c'est très zen à conduire. En fait, le système qui a été développé par Renault, donc qui marie un moteur thermique qui est d'origine Nissan avec un moteur électrique et avec un système de transmission, alors c'est à crabeau, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. En plus, le fonctionnement de toute cette boîte avec le moteur électrique, c'est, franchement, ça vous donnerait mal à la tête.
En plus, je connais mieux les avions que les voitures.
Ah, bon, parfait. Non, mais là, dites-vous que, en toute transparence, vous allez avoir une voiture qui va être agréable à utiliser dans tous les cas de figure.
Et qu'est-ce que vous pensez du LOA?
C'est un calcul à faire au départ. C'est un calcul à faire au départ. Aujourd'hui, on vous vend. Alors, on vous vend de la LOA en vous disant c'est la tranquillité. C'est vrai que vous avez un budget que vous maîtrisez tous les mois. Vous avez en plus dedans, j'imagine, l'entretien. Tout est compris. C'est-à-dire vous avez un budget dans lequel tout est
gardé.
Voilà. Vous avez un budget dans lequel tout est compris. Donc, ça vous permet de maîtriser les coûts. En même temps, si vous faites le calcul à la fin de votre location avec option d'achat, alors vous ferez bien attention en rendant la voiture, parce que ça, c'est un des pièges.
Ah oui.
D'abord, si vous faites plus de kilomètres que prévu, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Et puis, quand vous rendez la voiture, si elle n'est pas impeccable, ça va vous coûter cher également. Et quand vous faites le total à la fin d'une LOA de tout ce que ça vous a coûté, vous vous rendez compte qu'en fait, un crédit auto classique classique, ça coûte beaucoup moins cher. Mais, oui. mais dans un crédit auto classique, vous avez pas, vous sécurisez pas entre guillemets vos mensualités. Là, vous le vous sécurisez, puis vous vous dites que au bout de, vous avez pris quoi sur 4 ans?
Non, j'ai pris sur 3 ans.
Sur 3 ans.
Moi, c'est pas l'histoire de faire un crédit. C'est surtout parce que c'est très nouveau et que j'avais peur, mettons, d'une panne. Voilà.
D'accord. Bon, remarquez. C'est vrai, si vous me demandez est-ce que le système est fiable, j'en sais rien.
C'est tout nouveau.
J'en sais rien, c'est
on
tout nouveau.
On n'a pas le recul nécessaire.
Voilà, j'ai pas le recul. Bon, a priori, ça devrait être fiable, vu la technologie utilisée qui est assez simple. Dans le principe de fonctionnement, c'est très complexe, mais la technologie est très ingénieuse, donc ça devrait être fiable. Maintenant, on le saura dans un an ou deux. Donc, peut-être que vous avez fait le bon choix en sécurisant, effectivement, avec une LOA et puis avec l'assistance et puis l'entretien dedans. C'était peut-être le bon choix.
Oui, il y a déjà beaucoup de retours sur la, enfin de retours positifs ou négatifs sur cette voiture.
Alors positifs, oui, parce que les gens qui l'ont essayé, en particulier la presse, j'ai pas vu d'essais négatifs jusqu'à présent.
D'accord.
On est surtout dans la comparaison, bon, il y a la Yaris hybride de nouvelle génération qui vient de sortir. Et la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pas est-ce que la Clio c'est bien, la Clio hybride c'est bien, c'est est-ce que c'est mieux ou moins bien que une Yaris hybride. Alors je serais tenté de vous dire, ça dépend de l'usage que vous avez. Pour celui qui va faire des trajets un petit peu plus longs et sur des routes où on roule peut-être un peu plus rapide avec de la voie rapide à 110 ou de l'autoroute, c'est sans doute mieux de prendre la Clio. À l'inverse, si on est citadin, déjà l'encombrement de la Yaris est plus faible et sa consommation est légèrement inférieure, donc ça serait mieux en Yaris. Tout dépend de l'usage qu'on va en avoir. Puis après, il y a une affaire de goût aussi. Hein. On peut trouver une voiture à son goût ou pas.
Ah, je la trouve très jolie, la petite Clio.
Eh oui, non, mais elle est très belle. Elle est très belle. C'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture. Et je dirais, enfin, Renault arrive avec de l'hybride, quoi. Après toutes ces années où on nous a dit, vous savez quoi, c'est pas une bonne solution. Et enfin, on sort du diesel pour des citadines. Parce que c'est ce genre de voiture qui a vocation à faire de l'urbain ou du périurbain, ça doit pas être vendu en diesel. L'hybride, c'est la bonne solution.
Voilà pour la Clio hybride. Quasiment 9h-10, on va arriver tranquillement à la météo et aux infos de 9h avec l'essai de la semaine, Jean-Luc. Et l'essai de la semaine, donc, c'est la Hyundai i10 TGDI 100 N Line.
Vous avez rien compris. Bon, c'est la petite citadine de Hyundai, hein, fait 3,68 m de long. Tiens, on vient de parler de la Clio, qui est beaucoup plus grosse, c'est la taille au-dessus. C'est plus une concurrente de la Twingo, en fait, cette Hyundai i10. C'est la cousine de la Kia Picanto, qu'on connaît un petit peu mieux que la i10. C'est aussi une concurrente des Peugeot 108, Citroën C1, Toyota Aygo. Bon, elle hérite d'une version sportive grâce à un turbo qui est ajouté sur le moteur qui était déjà existant. Donc on se retrouve avec ce petit 3 cylindres turbo qui fait 100 chevaux. C'est un bloc qui est uniquement associé à la finition N-Line avec des prétentions, on va dire gentiment sportives. Hein, c'est pas une sportive pure et dure.
Ferrari, quoi.
Ouais, vous avez des petits liserés rouges à l'avant, à l'arrière. Vous avez une double sortie d'échappement, ça fait sport. Et puis des roues de 16 pouces au lieu des roues qui sont habituellement 14 ou 15 pouces sur les autres finitions.
C'est pas kéké, quoi.
C'est discret. C'est discret. C'est pas kéké.
D'accord.
Bon, elle est plutôt bien équipée. Elle est toujours accueillante. Alors on retrouve le rouge à l'intérieur, hein, pour égayer, pour faire un peu sport sur les aérateurs. Vous avez les surpiqûres sur le volant ou encore le levier de vitesse. À part ça, la planche de bord, c'est celle de la i10 classique. Alors, c'est traditionnel, hein, quand on voit aujourd'hui ce qu'il peut y avoir, par exemple, dans une 208. Là, on reste dans du traditionnel. Je dirais que c'est un peu daté. Vous avez quand même un écran central qui fait 8 pouces, donc d'une taille correcte pour une petite voiture. Bon. Malgré tout, il n'y a pas de miracle. Hein. Comme dans les concurrences à ce niveau de gamme, on a des plastiques qui sont plutôt basiques. C'est pas une Audi A1 où vous retrouvez avec des plastiques moussés. L'équipement, en revanche, est plutôt complet. Vous avez Apple CarPlay, Android Auto, le Bluetooth, le freinage automatique d'urgence avec détection de piétons, une caméra de recul, la clim. Enfin, tout ce qu'il faut.
Tout ce qu'il faut.
Plutôt pas mal équipé. Ouais. Et la principale qualité, je dirais, c'est que pour 3,68 m de long, elle offre une habitabilité qui est sans doute la meilleure aux places arrière. Donc, si vous avez besoin d'une petite voiture familiale où vous transportez les enfants, des choses comme ça, il y a quand même pas mal d'espace aux jambes pour la catégorie et un coffre qui offre un niveau suffisant. Alors, vous allez me dire, l'intérêt, bon, c'est qu'on a mis un turbo sur ce moteur, ça donne quoi? Eh ben, du coffre, il y en a aussi à l'avant, hein. Avec le turbo, ça change tout. Accélération, reprise, tout progresse par rapport aux versions atmosphériques, hein, qui sont disponibles en 67 ou 84 chevaux. La commande de boîte est agréable. Le moteur est pétillant parce qu'il a du couple. 172 Nm, certes, c'est pas énorme, mais dès 1500 tours minute. Donc, on a un moteur qui répond très bas, avec une belle sonorité. Et il y a un truc qui m'a bluffé sur cette voiture, j'ai roulé sur les petites routes dans l'Oise avec, c'est le freinage. Je ne vais pas dire ça freine comme une Porsche, mais presque.
Ah ouais.
Ah ouais, non, franchement.
Ce qui est plutôt rassurant pour un petit véhicule de course, comme
ouais,
ça.
Oui, voilà, la voiture est légère, en fait. Elle fait que 1024 kilos. Mmh. Ça rappelle un peu les GTI de la grande époque. Pas un moteur forcément puissant, mais oui, pas mais beaucoup
comme
de poids.
Comme c'est léger,
voilà,
ça
exactement.
Va vite.
Et puis, avec des freins vraiment très efficaces. Ça vous permet aussi d'avoir une consommation qui est raisonnable. Parce que moi, en roulant, bon, évidemment, je l'ai essayé un peu sportivement, j'ai consommé 6 litres au 100. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, selon Hyundai, c'est 5,4 litres au 100. Ça permet d'abord d'échapper au malus écologique. En revanche, bon, c'est un peu le défaut parce qu'il y a des roues de 16 pouces et puis qu'elle est un peu plus typée sport. C'est un peu ferme à basse vitesse et ça reste un petit peu bruyant, même si le bruit du moteur est agréable. Mmh. Il reste un peu trop présent dans l'habitacle. Alors, pour le tarif,
pour le tarif,
on est à 17 600 euros. C'est le même prix qu'une Twingo TCE 95 intense avec la boîte robotisée, qui est moins performante, moins bien équipée. Mais avec une boîte automatique, ça met cette i10 certes un peu chère, mais elle reste polyvalente et surtout elle est extrêmement plaisante à conduire.
D'accord.
Au quotidien ou quand on décide de rouler un petit peu plus sportivement.
Très bien, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça.
Bah oui,
bonne voiture. On a pas mal de réactions sur Direct Studio. On parlait tout à l'heure de la Clio. Et Didier qui nous dit, bon, alors vous voulez me parler de la Clio et de la nouvelle Mégane e-Vision.
On va en parler. La nouvelle Mégane e-Vision, c'est un concept. Hein.
Donc ça, c'est pas une voiture qui va sortir dans le commerce.
Pas telle quelle.
D'accord.
Pas telle quelle. Mais on va parler du programme électrique de Renault qui vient d'être reboosté cette semaine avec la présentation d'un concept car qui préfigure un modèle. Alors on sait pas trop dans quelle catégorie il évolue. Mm-hmm. Parce que on est à mi-chemin d'une berline, d'un SUV, voilà. Donc on va dire crossover, c'est le nom fourre-tout et qui préfigure donc les futurs Renault électriques, parce que mine de rien, la Zoé, elle est sortie il y a 9 ans quand même, donc c'est un véhicule qui commence à dater. Il serait temps pour Renault de proposer de nouveaux modèles électriques, et ça va être le cas.
Ouais. Pas mal donc de choses. Jean-Luc, on va se retrouver dans quelques instants sur RMC pour notre deuxième partie avec au menu tout à l'heure, hein, pour notre troisième heure dans ce week-end des experts auto. Eh bien, le déploiement de la mobilité électrique. Vous savez que l'État accélère dans ce domaine et on va se retrouver avec pas mal de choses, hein, Jean-Luc.
Ouais, mais alors déjà, on parle
pas mal d'initiatives intéressantes.
Ouais. On parlait de voitures électriques là. Enfin, ça y est, on a officialisé un bonus de 1000 euros pour les véhicules électriques d'occasion. Donc ça, c'est très bien. Ça va vraiment booster le marché de l'électrique d'occasion. Il y aura une forte augmentation des aides sur les bornes de recharge électrique. On va rétrofiter les installations déjà existantes. Vous savez que moi, c'est un des trucs qui me fait le plus râler, c'est qu'on a mis des bornes de charge lente en voirie, ça ne sert à rien. Donc
bien
on
sûr.
Va peut-être enfin les
donc
augmenter.
On va mettre quelque chose de plus puissant.
On va en profiter pour les mettre au standard moderne aussi, puisqu'on avait fait un choix qui était mauvais à l'époque avec les prises de type 3, alors que l'Europe avait choisi la type 2. Donc ça, il faut de toute façon se mettre en conformité. Il y a une enveloppe de 100 millions d'euros aussi qui est pour les bornes de recharge rapide sur les autoroutes et le réseau routier national. Ça va être bien aussi parce que la France est un peu miséreuse en la matière. On avait fait confiance à Sodetrel qui était une filiale de GF et en fait c'était un gros fiasco. Quoi.
Bon, voilà. Alors gros dossier là-dessus tout à l'heure et puis on retrouvera notre question pas si bête. Est-ce qu'on peut réparer sa voiture dans la rue? Ça, c'est,
Est-ce qu'on peut faire une vidange, une grosse réparation? Tiens, je démonte le moteur de la Fuego, pour mettre un moteur électrique. Tiens,
voilà. Voilà, à mon avis, on n'a pas le droit, mais on en parlera tout à l'heure. On retrouvera aussi notre rendez-vous sur le vif avec une nouvelle campagne de communication de la prévention routière qui est assez étonnante. Et puis,
François Alain sera avec nous. On célébrera avec lui l'arrivée de la 6e saison de Vintage Mécanique. Voilà le menu.
Et puis, bien sûr, jeudi prochain à 21h sur RMC Découverte.
Exactement. On sera au rendez-vous et François viendra nous commenter tout ça. Et puis, bien évidemment, vos questions auto. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Météo Info, on est de retour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.